L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres, alors qu'il était prévu en cette mi-juillet le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, ainsi que la neutralisation des FDLR et la résolution de la cause de la FSAM-23, aucune de ces trois formalités n'est réalisée. Tous les processus de paix en cours en RDC sont au point mort et à l'opposé. Les positions des uns des autres se renforcent, notamment en territoire de Fizi. Un analyste que vous suivrez dans ce journal propose aux belligérants de mettre au premier plan l'intérêt du peuple congolais. La partie nord du territoire de Kabare, spécifiquement l'axe Mitsi-Moudaka, enregistre une série des cas d'enlèvement. L'espace d'au moins 3 mois, 11 cas ont été enregistrés. En sport, le premier choc de demi-finale de la Coupe du Monde 2026 se joue ce mardi à partir de 21h de Bukavu. Il mettra sur scène l'Espagne et la France pour une place en finale. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Tous les processus de paix en cours en RDC sont au point mort à cause de la mauvaise foi des parties au conflit. Le non-respect des engagements pris devrait constituer une énergie nouvelle pour pousser les acteurs à s'inscrire dans la logique du dialogue proposé par le tandem Sanko et Cissé. C'est ce que pense Oswald Rubasha, analyste sociopolitique qui, à l'instar de plusieurs acteurs, constate le renforcement des positions des uns des autres en territoire de Fizi en cette mi-juillet qui devrait consacrer le départ des troupes rwandaises du sol congolais. Cette échéance avait été annoncée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui avait aussi souligné que la normalisation de la situation nécessite en parallèle la neutralisation des FDLR et le traitement de la cause de la FSAM-23 à Doha au Qatar. Malheureusement, constate au soir de Rubasha, le processus de Doha est muet depuis plusieurs semaines et les engagements pris dans le cadre du processus de Washington ne sont pas respectés. Il appelle les partis à mettre au premier plan les intérêts du peuple congolais pour sortir de cette crise. Au soin de Rubasha.
Tous ceux-là qui ont pris des engagements à Washington, entre Kinshasa et Kigali, à Doha et à Suisse, entre Kinshasa et Goma, tous ces gens, nous demandent vraiment de prendre à cœur la souffrance des Congolais et de démontrer de quoi ils sont engagés vraiment à mener le peuple congolais vers le retour de la paix. Ils ont pris des engagements, mais aujourd'hui tout le monde constate que cet engagement n'apporte pas la paix attendue. La crispation sécuritaire actuelle dans le territoire de Fizi est une illustration parfaite de la radicalisation de la situation, est une raison parfaite de l'échec total de tous les engagements pris à Doha, à Suisse ou à Washington. On a l'impression finalement que tous les engagements ont été des passe-temps. Tous ont choisi de se moquer des peuples congolais. Au lieu de l'engager effectivement vers la voie de la paix, on sent de plus en plus que tous les engagements n'ont été que des parafaits, n'ont été que des distractions. Tous ces échecs-là devaient plutôt nous servir d'énergie nécessaire pour pousser les uns et les autres finalement dans la logique proposée par les tandems Senko et CC. Nous restons convaincus que les tandems Senko et CC est la voie royal aujourd'hui pour le Congo, c'est la voie à expérimenter pour sortir de la crise.
Oswald Rubasha au micro de Radio Mandeléo et les organisations de la société civile dans la ville de Kamituga exigent des enquêtes sérieuses pour mettre la lumière sur les cas d'assassinats ciblés devenus monnaie courante dans cette partie du territoire de Mwenga. C'est ce qu'on peut lire dans un mémorandum lu et déposé au terme d'une marche pacifique organisée lundi 13 juillet 2026 dans cette troisième ville du sud Kivu. Dans ce mémorandum, les organisations de la société civile parlent de plus de 13 cas d'assassinat dont le suivi n'a jamais été effectif en ce qui concerne les enquêtes et la justice. Le dernier cas en date est celui de Bonané Boulambo, abattu à bout portant le samedi 4 juillet dernier par un élément identifié comme militaire des forces armées de la RDC au camp 6 à Kamituga. À cet effet, les organisations de la société civile, à travers le bureau des inspecteurs des droits de l'homme, exigent justice et demandent aux commandants des forces armées de la RDC et de la police de remettre de l'ordre au sein de leurs troupes. On écoute un extrait de ces mémorandums, lu par Wissoba Wakilongo Fiston, coordonnateur du bureau des inspecteurs des droits de l'homme, BIDDH en sigle.
Trop, c'est trop. Le samedi 4 juillet 2026, au petit matin, le citoyen Bonané Boula Moshandrak a été assassiné à bout portant au camp Sisa Kamituga par un élément des FARDC. Une vie fauchée, une famille détruite et encore une fois, le silence et les méfiances de la justice militaire. Bonané Boula Moshandrak n'est pas le premier, il est le 14e. 14 Congolais tués, 14 familles endeuillées, 14 dossiers qui dorment dans les tiroirs de la justice militaire de Kamituga et Mwenga. 14 preuves que la vie d'un civil à Kamituga ne vaut rien aux yeux de certains porteurs d'uniformes. Nous sommes en colère pacifiquement. L'interpellation est lancée au commandant des porteurs d'armes FARDC, PNC et Wazalendo, Evra à Mwenga et Kamituga. Éduquez vos hommes ou désarmez-les, car une armée qui tue son peuple est une milice. À vous, tribunaux militaires du pays, du Sud Kivu, de Mwenga et de Kamituga. Votre silence et non-organisation des chambres foraines à Kamituga nous tient plus que les balles.
Ayant réceptionné le mémorandum, le maire de Kamituga a promis de le transmettre à qui de droit. Et plus de 11 cas d'enlèvement ont été signalés dans un espace d'au moins 3 mois dans les groupements des Bougoré, Miti et Moudaka, dans la partie nord du territoire de Kabare, au sud de Kivu. Ceci ressort du monitoring réalisé par les défenseurs des droits humains du territoire de Kabare et dont le résultat a été partagé au cours d'un entretien avec Radio Mandeleo lundi 13 juillet 2026. Le contenu avec Hélène Boudjiriri.
Il en ressort que les victimes sont enlevées soit à leur domicile par des inconnus, soit en cours de chemin ou dans leur champ. Souvent, les membres des familles constatent carrément la disparition de leurs proches dans des circonstances inconnues, indiquent des défenseurs des droits humains dans la zone. Si certaines des familles arrivent à recevoir des messages venant des inconnus qui demandent des rançons ou qui profèrent des menaces, d'autres familles restent sans nouvelles de leurs proches enlevés des jours, voire des semaines entières. Après paiement des rançons, certaines victimes sont libérées dans un état sanitaire critique et pour d'autres, ce sont des corps sans vie qui sont retrouvés plus tard. Les défenseurs de droits humains dans la partie nord du territoire des Kabare font observer que cette situation inquiète déjà les paisibles citoyens qui craignent pour leur sécurité. Ils lancent un appel aux autorités de veiller à la sécurité des paisibles citoyens et leurs biens, à la population de rester unie, cultiver l'amour et le pardon et en cas de conflit, à faire recours à la médiation au lieu des règlements des comptes. L'un d'eux s'exprime.
La situation pour le moment est très compliquée parce que nous sommes en train d'assister à des cas d'enlèvement. Dans l'espace de 3-4 mois, nous avons déjà connu au moins 10 cas d'enlèvement. Et vous trouvez que réellement la situation n'est pas bonne. D'abord à toute la communauté, nous demandons aux gens de vivre l'amour parce que vous savez que Dieu nous a laissé l'amour et l'amour est le seul grand commandement qui nous a été laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous demandons aux gens de vivre l'amour. Lorsqu'il y a un problème, ça peut se régler entre nous-mêmes, mais aussi nous demandons aux différentes autorités qui nous suivent d'assurer la sécurité parce que c'est leur mission.
Interrogé à ce sujet, le chef adjoint du centre commercial de Kavumu, chargé de la sécurité et du développement, Ngengele Munganga Fiston, indique que les autorités de la place sont à pied d'œuvre pour dénicher les réseaux des malfaiteurs qui sont à la base de ces actes d'enlèvement. Il appelle la population au calme, à dénoncer tout cas suspect et à collaborer avec les services de sécurité. Ngengele Munganga Fiston en parle.
Les camps d'enlèvement sont devenus une monnaie courante. Nous sommes en train d'y penser jour et nuit. Nous demandons à la population de dénoncer les cas suspects ou les personnes suspectes qui se trouvent dans les milieux. Ils doivent seulement avoir confiance aux autorités. La solution vraiment sera là.
Signalons que l'insécurité persistante dans cette partie du territoire est déjà à la base d'un exode rural de plusieurs familles qui préfèrent vivre ailleurs, comme à Bukavu, dans d'autres coins du pays et de la région ou encore dans des centres jugés plus sûrs en ce qui concerne la sécurité.
Pour que leur rumeur cesse et que la vérité triomphe tout le temps dans nos
chaque
vies.
Jour.
Pour que leur rumeur cesse
et que la vérité triomphe.
Radio Mandeleo, une source crédible d'information.
Nous changeons de chapitre à présent. Un nouvel incendie a consumé plus de 20 maisons dans la matinée de lundi 13 juillet 2026 sur Albert Kaya Boussis au quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda. Alors qu'il n'était que 7 heures, les habitants qui se préparaient pour leurs activités de la journée n'ont pas eu d'autre choix que d'assister à ce drame. Présent sur place pour le camp de Radio Mandeléo, Alain Kabika nous propose ce reportage.
Il est 9h au quartier Nyalukemba. Face à l'ampleur des flammes, des habitants assistent impuissamment à l'incendie de leur maison, un événement qui a commencé au réveil.
L'incendie a commencé à 8h quand les gens criaient. Non, c'était plutôt à 7h.
De loin, quelques jeunes qui allaient de l'eau pour certains et du sable pour d'autres essayent d'éteindre les flammes sans compter les risques possibles. Un cadre de base rencontré sur les lieux et qui ne voulait rien communiquer quant à ce sans l'aval de sa hiérarchie évoque une mauvaise installation électrique comme cause de cet incendie. Au sujet du bilan, il parle de 16 maisons calcinées et plusieurs biens partis en fumée.
L'origine de cet incendie, c'est la mauvaise installation électrique. Les camions anti-incendie n'est pas arrivé. Ce sont les jeunes du quartier qui sont intervenus pour maîtriser le feu. À ce stade, le bilan est de 16 maisons incendiées.
La quarantaine largement dépassée, Rafiki Apitandougou Moubembe est un père de famille dont la maison est réduite en cendres. Rencontré devant sa parcelle, il explique que le feu est parti d'une des maisons de ses voisins avant d'embraser la sienne et bien d'autres par la suite. Selon lui, tout est parti d'un brasero sur lequel était chauffée l'huile pour cuire les haricots. Il lance un appel aux autorités et personnes de bonne volonté à leur venir en aide.
C'était 30.
L'incendie s'est déclaré à 7h30 dans une maison voisine. L'huile a consumé la maison avant d'embraser d'autres maisons. Elle a couru dehors au lieu d'éteindre les feux. Que les personnes de bonne volonté nous viennent en aide.
D'autres habitants présents insistent sur le fait que les populations devraient être vigilantes, surtout en cette période de saison sèche. C'est le cas de Mapika Chibalanga qui appelle à la gestion responsable des sources d'énergie.
Et les maisons ne sont pas aussi bien construites. Il y a cet entassement des maisons, surtout construites en planche. Quand la maison est construite en planche, elle est tellement exposée au feu. Le désordre aussi dans les maisons, c'est juste à cause des mauvaises situations de la vie.
Il condamne les constructions anarchiques et appelle les autorités à déployer urgentement les camions anti-incendie en cas d'alerte pour limiter la propagation du feu.
Nous demandons aussi aux autorités, surtout au maire de la ville, lorsqu'on appelle pour ces situations de feu ou de brûlure de maison, il faut que le maire de la ville voit comment avoir une anti-incendie en permanence ici dans la ville. Au besoin, avoir dans chaque commune un véhicule anti-incendie.
Désespoir et désolation, c'est le message sur les visages de ces familles qui se préparent à passer leur première nuit à la belle étoile, exposées aux intempéries, loin des luxes et dans leur maison, qui appartiennent déjà au passé.
Entre-temps, ce sont les habitants de l'avenue Rodouvira 2 dans le quartier d'Endere en commune d'Ibanda qui ont participé samedi 11 juillet à une séance de sensibilisation consacrée à la prévention des incendies et à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Organisée à l'initiative du chef d'avenue, Patrick Katikela, avec l'appui technique des experts en la matière, l'activité a aussi été un moment pour rappeler les conséquences causées par des cas d'incendie dans cette partie de la ville de Bukavu. Conscient de la nécessité d'agir à temps, le chef d'avenue a fait observer qu'un grand nombre d'incendies peuvent être évités grâce à des gestes simples. Ainsi, Patrick Katikela et les experts en la matière ont recommandé aux habitants de faire installer ou réparer les installations électriques uniquement par des techniciens qualifiés, d'éviter les branchements fraudulés et la surcharge des prises électriques, de débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés et de privilégier des ampoules à faible consommation. Ils ont également insisté sur les précautions à prendre avec les installations solaires notamment, en confiant leur montage à des professionnels, en plaçant les batteries dans des endroits bien ventilés et en contrôlant régulièrement l'état des câbles et des connexions. S'agissant de la cuisson domestique, les habitants ont été invités à ne jamais laisser un brasereau ou un réchaud sans surveillance, à éloigner les enfants des sources de chaleur, à éteindre complètement les braises avant de quitter la maison ou d'aller dormir et à éviter le stockage d'essence, de pétrole ou d'autres produits inflammables à l'intérieur des habitations, conclut le chef d'avenue route d'Ouvira 2. Nous restons toujours dans la ville de Bukavu. Des mesures concrètes s'imposent de toute urgence pour améliorer la gestion des déchets dans la ville en prélude de la prochaine saison des pluies. L'urgence s'explique par le fait que l'absence d'un véritable plan de gestion des déchets expose davantage la ville au risque d'inondation, des pollutions et d'autres conséquences environnementales. C'est ce que pense Espoir Mugabo, enseignant et chercheur en gouvernance des ressources naturelles et environnementales, au lendemain des dégâts causés par les pluies de samedi dernier dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Détail avec Omer Moudekereza.
Les chercheurs font remarquer que, malgré les taxes payées par les ménages pour l'évacuation des ordures, des tas d'immondices continuent de s'accumuler dans plusieurs quartiers et ronds-points de Bukavu. À la moindre pluie, explique-t-il, ces déchets obstruent les caniveaux avant d'être entraînés vers le lac Kivu, où ils arrivent à compromettre le bon fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1. Espoir Mugabo attribue cette situation au manque de planification, le manque de professionnalisme des structures chargées de l'assainissement, mais aussi au déficit de responsabilité citoyenne dans la gestion des déchets. Il rappelle que les caniveaux ne doivent pas être transformés en dépotoirs pendant la saison sèche, afin d'éviter leur obstruction lors des premières pluies. Les chercheurs recommandent notamment l'élaboration d'un plan durable de gestion des déchets, l'affectation effective des fonds collectés aux activités d'assainissement, l'application des sanctions contre les contrevenants et une prise de conscience collective. Espoir Mugabo en parle.
Il faut pas qu'on soit en train de dorloter les gens. Il faut des mesures coercitives. Surtout que, déjà, dans une administration rebelle, il fallait jouer sur ça. Sur le fait que la répression est une stratégie importante. Pour moi, c'est ça l'idée. Il faut pas que les gens soient dorlotés. Il faut punir les gens, les acteurs, que ce soit la population, que ce soit les entreprises chargées de la gestion des déchets, notamment aussi les autorités politico-administratives qui ne savent pas mettre en place des responsabilités. Il faut aussi un plan au niveau des autorités politico-administratives. C'est un plan de gestion. Et il faut que tout l'argent qui est payé pour gérer les déchets soit bien entendu affecté à la gestion des déchets. Il ne faut pas que les gens paient de l'argent, paient des taxes, et des taxes qui seront malheureusement affectées à des poches des acteurs politiques.
Pour rappel, malgré les frais d'évacuation des déchets payés par les ménages, des tas d'immondices restent visibles dans plusieurs quartiers et ronds-points de Bukavu. Lors des dernières pluies, plusieurs caniveaux obstrués ont débordé, entraînant des déchets vers le lac Kivu et dans les avenues au point de paralyser la circulation.
Et les jeunes ressortissants de Kitutu, chef-lieu de la chefferie d'Omuzimu en territoire de Mwenga, sont appelés à entreprendre dans leur milieu afin de contribuer au développement durable et de participer à l'essor socio-économique de cette partie du Sud qui vous ceci passe par des initiatives génératrices des revenus, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, les activités agricoles, l'élevage, la protection de l'environnement et la mise en œuvre des projets communautaires. Message lancé lors de la cérémonie organisée dimanche dernier à Bukavu à l'occasion des 6 ans d'existence de l'organisation des ressortissants du Grand Kitutu. Les précisions avec Myriam Mufano.
Selon Robert Mouetaminoa, président de l'ARGK, cette rencontre visait non seulement à célébrer les 6 années d'existence de l'association, mais aussi à réfléchir sur son avenir en élaborant des projets capables de soutenir le développement du Grand Kitutu. Parmi les réalisations, il cite notamment l'assistance sociale apportée aux membres en situation de vulnérabilité, l'appui au déplacement des personnes souhaitant regagner Kitutu mais ne disposant pas de moyens financiers, l'accompagnement aux familles lors des événements heureux et malheureux, ainsi que la mobilisation des membres autour des actions de solidarité des développements communautaires. Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent. Il évoque notamment les inégalités liées à l'accès à l'héritage pour les femmes et les filles de Kitutu, la malnutrition qui continue de prendre de l'ampleur notamment chez les enfants et les femmes enceintes, ainsi que la précarité des conditions de vie des ménages. Robert Mouetaminoa appelle les jeunes à éviter les discours de haine et de division en mettant plutôt leurs compétences, leur créativité et leur savoir-faire au service de la communauté afin de répondre tant soit peu aux défis qui bloquent les développement à Kitutu. on l'écoute.
La jeunesse de Kitutu ne doit pas être oisive, ne doit pas être attentiste. Elle doit s'engager dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire mettre la main dans le sol, cultiver le sol, entreprendre des activités de développement et aussi aimer les études et surtout les filières techniques pour que le pain qu'on produit à Kitutu puisse être transformé localement et aider à combattre la malnutrition et la pauvreté qui est devenue presque endémique chez nous. Voilà un appel pathétique lancé vers la jeunesse, que la jeunesse s'active à travailler, à transformer et la vie doit être meilleure plus qu'aujourd'hui avec leur intervention.
Signalons que les regroupements des ressortissants des Grands Kitutu, RGKI, est une association sans but lucratif qui repose sur plusieurs principes, notamment la non-discrimination, la serviabilité, le respect, la collaboration, la discipline, la redevabilité et la solidarité entre ses membres, conclut son président.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, la Coupe du Monde à 2026 atteint la phase ultime au terme de laquelle l'image du prochain vainqueur se dessinera. Il s'agit de l'étape de demi-finale qui se joue le mardi 14 et le mercredi 15 juillet 2026. Champion d'Europe en 2024, l'Espagne croise la France, un des favoris de la compétition. Ce match aura lieu mardi à partir de 21h et à la même heure le mercredi. Place au choc entre l'Argentine et l'Angleterre. À ce stade, tout moindre faux pas signifie une élimination de la compétition. Les forces en présence s'équivalent, mais la cohérence et la réussite sont des éléments déterminants pour départager les quatre formations. Les vainqueurs se retrouveront en finale le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York. En cas de victoire de la France et de l'Argentine en demi-finale, la finale sera la copie parfaite de celle de l'édition de 2022 qui avait été couronnée par le sacre de l'Argentine de Lionel Messi. Et au niveau provincial, le comité de coordination de l'OC Mungano informe les membres fanatiques du club et les publics en général que l'assemblée générale élective est fixée pour ce 18 juillet 2026 à partir des 13h dans la salle Witness. Nous sommes en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu, vient communiquer. Le comité invite toute personne physique intéressée et remplissant les conditions détaillées à manifester sa volonté par le dépôt de sa candidature. À cet effet, tous les postes du comité de coordination sont à pourvoir. Les critères sont les suivants pour tous les postes. Il faut être membre de l'équipe, jure d'une bonne moralité, n'avoir jamais été cité dans un trouble quelconque au sein du club ou au stade, maîtriser les textes régissant le football. En revanche, pour le poste de président de coordination, il faut être à jour avec la cotisation durant au moins l'une des trois dernières saisons sportives, déposer une caution non remboursable de $1,000 américains, préparer un projet pour l'équipe pendant le mandat à présenter le jour de l'Assemblée générale élective, savoir lire et écrire le français et le swahili. Pour le poste de premier et deuxième vice-président, il faudra être à jour avec la cotisation durant au moins l'une des trois saisons sportives, déposer une caution non remboursable de $500 américains, savoir lire et écrire le français et le swahili. Les autres membres du comité, notamment les trésoriers et les conseillers, pour eux, il faudra déposer une caution non remboursable de $250 américains en plus d'être à jour avec la cotisation durant l'une des trois dernières saisons sportives. Il faudra préciser que les éléments du dossier sont la lettre de motivation adressée à monsieur le président de la commission électorale, le curriculum vitae, la preuve de paiement de la caution, un reçu de la cotisation déposée à la trésorerie du club, la photocopie de la pièce d'identité et le dépôt du dossier s'est fait au secrétariat de l'OC Mungano jusqu'au 14 juillet 2026 à partir de 17h, précise le secrétaire général de l'OC Mungano, l'ingénieur Augustin Wabenga, via un communiqué rendu public le week-end dernier.
La revue de presse. Radio Maïndéléo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux parissant à Bukavu et dans la capitale.
La recrudescence de la section de la luette chez les enfants par des personnes non qualifiées à Moudoussa en territoire de Kabaré et le manque d'accès aux résultats d'examen d'état aux finalistes du territoire de Fizi en raison de la suspension de la connexion Internet font partie des sujets commentés par la presse lundi 13 juillet 2026. La revue de presse avec Myriam Moufano.
We'll cette revue de presse par cabaretactu.info qui écrit « La société civile Force Vive du groupement des Moudoussa alerte sur la recrudescence de la section de l'Alouette chez les enfants par des personnes non qualifiées et sans autorisation d'exercer des actes médicaux. » Dans une déclaration publiée le 11 juillet 2026, son président François Moubalama et son secrétaire rapporteur Alain Chouza condamnent cette pratique qu'ils jugent dangereuse pour la santé et la vie des enfants. Selon cette organisation, plusieurs individus se présentent comme des prestataires des soins sans disposer d'une formation médicale reconnue et réalisent des interventions dans des conditions non médicalisées. Elle rappelle que l'Alouette joue un rôle essentiel dans la déglutition, la protection des voies respiratoires et la parole, tandis qu'une ablation injustifiée peut provoquer des hémorragies, des infections, des difficultés à avaler, des troubles de la parole et d'autres complications graves. Face à cette situation, la société civile appelle les autorités sanitaires, administratives, judiciaires et sécuritaires à intensifier la sensibilisation afin de lutter contre l'exercice illégal de la médecine et à poursuivre les auteurs de ces pratiques. Elle exhorte également les parents à recourir uniquement aux structures sanitaires reconnues et aux professionnels de santé qualifiés, tout en invitant la population à signaler tout acte mettant en danger la vie des enfants. De son côté, Jambo RDC indique qu'à l'approche de la saison culturelle A, le cultivateur du groupement des Iralo dans le territoire des Calais alerte sur les nombreuses difficultés qui menacent les activités agricoles. Ils affirment manquer de semences, d'outils oratoires et des moyens financiers, une situation qui risque de compromettre la prochaine campagne agricole. Les agriculteurs contactés par ces médias expliquent que l'insécurité persistante, les déplacements massifs des populations et les conditions de vie précaires limitent leur capacité à investir dans les étrants agricoles. Ils dénoncent également les difficultés d'accès aux terres cultivables, ainsi que la dégradation des routes de dessertes agricoles qui freinent l'accès aux champs et l'écoulement des récoltes vers le marché. Face à ces défis, le cultivateur appelle les autorités provinciales, les gouvernements congolais et les partenaires humanitaires à leur fournir des semences, des outils agricoles et une assistance alimentaire. Il demande également le rétablissement de la sécurité et la réhabilitation des routes afin de relancer la production agricole et de renforcer la sécurité alimentaire dans la région, conclut Jambo RDC. Bouclons cette revue de presse par stnews.info qui titre « Fizi, privé d'accès aux résultats de l'examen d'État 2026, des milliers de finalistes plongés dans l'incertitude ». En croire ces médias, des milliers de finalistes de l'examen d'État 2026 dans les territoires des Fizi au sud Kivu ne sont toujours pas en mesure de consulter leurs résultats, pourtant publiés depuis jeudi en raison de la suspension prolongée des réseaux de télécommunications et de la connexion Internet. Une situation qui alimente l'inquiétude des élèves et de leurs familles. Dans un communiqué rendu public et consulté par stnews.info, le mouvement citoyen Machozi Raia indique que les réseaux Vodacom, RTL et Orange, habituellement utilisés pour la consultation des résultats, demeurent disponibles à la suite de la suspension décidée par le gouvernement. Selon cette organisation, cette interruption prive des milliers de candidats de leur droit à l'information et les empêche de connaître l'issue de plusieurs années d'efforts. Les conséquences de cette coupure dépassent le seul cadre de l'éducation. Déjà confronté aux difficultés liées à l'absence des services de télécommunications, la population des Fizi voit ses activités socio-économiques davantage perturbées, tandis que les familles des finalistes restent dans l'attente sans possibilité d'accéder aux résultats. Ils plaident pour la mise en place de mécanismes alternatifs permettant aux élèves d'accéder à leurs résultats, car l'éducation ne devrait pas être une victime collatérale de la crise sécuritaire, conclut stnews.info.
Communiqué avant la fin de ce radio-journal, plusieurs personnes se confrontent à un problème sérieux d'utilisation de la première langue internationale en traversant les frontières. Aujourd'hui, tous les pays amis de la RDC sont presque des pays anglophones. Que feras-tu comme les Américains sont partout dans le pays en y investissant? Quelle sera ta langue de communication? En effet, le centre de formation BCLS donne l'occasion à toute personne désireuse d'apprendre l'anglais, le français, accompagné d'une formation accélérée en informatique, de venir au complexe scolaire La Pro en Gouba, non loin du feu vert pendant cette période des vacances. Le centre a réduit sensiblement le prix pour donner l'occasion à tout le monde d'y accéder. L'usage de l'anglais est un atout dans le monde des affaires aujourd'hui. 3 vacations sont disponibles, jour de 8h à 12h, après-midi de 13h à 15h et de 16h à 18h30. La formation débute ce mardi 14 juillet 2026 pour le deuxième groupe d'apprenants. Bonjour Sangwa Passion, directeur du centre, signe ce communiqué. Par ici prend fin ce radio journal. Barton Boussim a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mandelieu. Au revoir.